Et il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Aujourd'hui, à un bout de la France, on parle nucléaire et à l'autre bout, tout côté ouest, on s'interroge sur la préservation des océans. Et ces deux sujets ne sont pas si éloignés parce que si on veut accentuer l'énergie renouvelable, il faut des composants dont certains, pas tous, hein, mais se trouvent au fond des mers, des composants pour certaines de nos batteries, pour nos outils de télétravail. Mais nous savons aussi que l'océan, déjà abîmé par les plastiques, déjà parfois asséché par la surpêche, n'est pas un puits sans fond dans lequel nous pouvons puiser justement avec gourmandise et aller chercher ce que bon nous semble. Les questions soulevées aujourd'hui, c'est faut-il sanctuariser alors les océans avant qu'il ne soit trop tard, au-delà même des 30% sur lesquels chacun est censé s'être engagé. Sanctuariser d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on interdit toute exploitation, tout passage, toute pêche? Est-ce que ces zones sanctuarisées fonctionne déjà? Est-ce qu'elle répare? Où en sommes-nous? Faut-il d'urgence renoncer à toute exploitation minière? Parce que c'est aussi de cela dont on parle, aller chercher le minerai dans les grands fonds. Les Canadiens, les Belges sont dans les starting blocks et n'attendent qu'une autorisation. L'océan, un écrin à préserver ou un puits de ressources? La vérité sans doute est quelque part au milieu et c'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
C'est avec vous qu'on commence, Martine. Soyez la bienvenue. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, moi, j'avais une question qui m'est venue lorsque j'ai entendu sur France Culture ce matin une personne de l'Ifremer qui disait, pour les énergies renouvelables et puis aussi pour nos portables, tout ça, on va avoir besoin de plus de métaux lourds. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment absolument utopique ou déraisonnable d'espérer que les chercheurs refusent de faire des recherches qui permettraient l'exploitation des grands fonds marins et notamment pour l'exploitation minière? On sait ce qu'il en est quand même de notre capacité à tout détruire. Et donc voilà, je me disais, j'aurais souhaité que les chercheurs disent non.
Refuse de chercher.
On ne veut pas les faire, voilà.
Merci beaucoup Martine pour cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Je me sens un peu seule en studio pour ne rien vous cacher. Tout le monde est à Brest au One Ocean Summit, à commencer par Élodie Martini-Cousty. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes
Fabienne.
Responsable du réseau Océan, Mer et Littoraux du mouvement France Nature et Environnement. Joachim Claudet est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste des aires marines protégées. Et puis Célia Quiret est avec vous. Je vous salue, Célia, spécialiste environnement à France Inter et qui couvre ce sommet pour nous, pour France Inter, depuis son démarrage et jusqu'au bout, bien sûr. Qu'est-ce qu'on
Bonsoir,
dit
Fabienne.
Je vais vous poser la question à tous les deux. Je commence avec vous, le chercheur, Joachim Claudet. Qu'est-ce qu'on dit à Martine qui dit « Et si les chercheurs refusaient de chercher ?»
Bonjour, hein, je comprends bien la question et ce qu'il y a derrière, mais c'est difficile. Quand on cherche, il peut y avoir un très grand nombre d'implications derrière, et c'est pas forcément aux chercheurs d'orienter ou non leur recherche par rapport aux implications possibles. Mmh. Se connaître les grands fonds, ce n'est pas uniquement pour les métaux, mais on a besoin de connaître ces écosystèmes qui sont très peu connus. On sait qu'ils sont vulnérables au changement climatique, on sait qu'ils jouent un rôle dans le cycle du carbone, donc il est important de pouvoir avoir une connaissance sur ces milieux très peu connus et qui ont un rôle fondamental dans le fonctionnement du globe dans son ensemble.
Parce que chercher, ça veut aussi dire derrière, surtout ne faudrait pas. Ça peut aussi vouloir dire ça quand on est chercheur, Joachim Claudet.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est en comprenant mieux ces écosystèmes profonds qu'on peut potentiellement montrer à quel point ils sont vulnérables ou seraient vulnérables à de l'exploitation, et donc utiliser cette connaissance pour potentiellement, si besoin, montrer que l'exploitation peut être dommageable.
Élodie Martini-Cousty, depuis votre chapelle, c'est pas une chapelle, en tout cas depuis votre responsabilité océan, mer et littoraux à France Nature Environnement, est-ce qu'on a la tentation de dire n'y allons pas du tout, n'y touchons pas du tout, on ne doit même pas essayer, en fait, on ne doit pas aller chercher, ou est-ce qu'on se dit aussi de la même manière, on sait ce qu'il y a là en dessous, donc si c'est pas nous qui le faisons, quelqu'un d'autre le fera probablement, faisons le mieux. Est-ce que ça existe aussi dans la discussion, ça?
Alors, ça devrait exister dans la discussion, et ça fait longtemps que les scientifiques et les chercheurs ont quand même des connaissances sur les grands fonds marins et nous disent, parce que nous, les associations de protection de la nature, on s'appuie sur la science et nous disent, dans les grands fonds marins, bien sûr, il peut y avoir des minerais rares, du cobalt et d'autres choses qui peuvent en effet être intéressantes pour la transition énergétique et pour nos téléphones. Mais il y a aussi des ressources génétiques et des molécules qui peuvent nous soigner, qui peuvent nous aider à devenir plus résilients. Et ce sont des écosystèmes extrêmement complexes. Et tous les scientifiques, moi, que je connais, qui sont allés dans les grands fonds, qui ont eu la chance de pouvoir faire ça, ont dit « c'est magnifique ». C'est ultra fragile et on a besoin de mieux connaître les écosystèmes associés entre le fond, la colonne d'eau, la surface. Mmh. Et dans les grands fonds qui composent une bonne partie de la planète bleue océan, et donc de 70% de notre planète Terre, il existe des trésors que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas l'océan autant que nous connaissons l'espace. Et donc, il faut juste avoir l'humilité d'aller faire de la recherche, d'aller voir ce qui peut être intéressant pour l'homme. Mais sur le long terme, on peut pas aller chercher des minerais et se dire qu'il va falloir des siècles pour restaurer ces grands fonds, sachant qu'aujourd'hui, l'océan est déjà une vaste poubelle de plastique, qu'il est surexploité et que vraiment, si je pense que le président de la République a voulu faire ce One Ocean Summit, c'est pour alerter sur l'état des océans et l'état de nos mers qui sont en très très mauvais état de conservation.
Et j'ajoute, Fabienne, pour répondre à l'auditrice, que l'Union internationale de conservation de la nature s'était entendue sur un moratoire sur l'exploitation des fonds marins. Mais en réalité, c'est une question de timing, c'est-à-dire c'est un moratoire pour quelques années, le temps que les recherches soient faites justement dans les profondeurs pour voir les impacts de cette exploitation. Donc on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire décider d'explorer et d'exploiter en même temps, en fait. C'est ça que disent les chercheurs.
Et qu'est-ce qui pardon, allez-y, Élodie Martin-Ecousti. On va se marcher sur les pieds de temps en temps, puisqu'on ne se voit pas, mais je vous en prie, allez-y.
Si on démarre je rebondis sur ce que dit Célia, si on démarre l'exploitation très vite, là, comme la France d'ailleurs l'a demandé à l'AIFM d'ici 2023, ce qui serait quand même très dommage, c'est qu'on n'aura pas la connaissance fine des ressources génétiques. Donc nous, on aimerait vraiment que la France annonce un moratoire sur l'exploitation, et pas l'exploration, l'exploitation des grands fonds, parce que d'abord, tout ce qu'on a dans nos téléphones, on peut le recycler et on peut le réutiliser, et ça, c'était aussi pour répondre à la question de votre auditrice.
Parce qu'on parle de quoi, en fait, Joachim Claudet? Parce que peut-être qu'on va un peu vite en disant « Ah, tout ça, c'est pour avoir un nouveau téléphone. » C'est peut-être un peu plus complexe que ça. Qu'est-ce que potentiellement on va chercher qu'on ne trouverait pas ailleurs? C'est pour ça que je vous pose la question. Ou est-ce qu'on se dit que on y va finalement, pardon de le dire comme ça, par flemme, mais parce qu'on sait que ça existe, mais il y aurait tellement d'autres manières?
Oui, alors on va chercher des minerais qui peuvent exister sur Terre, mais qui sont très rares et qu'on trouve de manière assez abondante dans certains types de formes géologiques, comme les nodules polymétalliques par exemple, et on peut y trouver du cuivre, du cobalt, du manganèse, et dans les grands fonds marins on peut aussi trouver d'or, de l'argent. Donc c'est des métaux qu'on connaît, qui existent et qu'on utilise beaucoup, mais c'est que maintenant il est devenu potentiellement rentable de pouvoir exploiter ces minerais. C'est ça qui a changé par rapport à avant. On savait l'existence de ces modules, mais maintenant, avec tous les projets d'exploitation, il y a des gens qui ont investi de l'argent et qui pensent que c'est rentable.
Et je disais tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de pays, je citais le Canada, la Belgique, qui étaient dans les starting blocks. Est-ce que c'est vraiment en ces termes-là que ça se joue? Ça veut dire que on ronge son frein et on attend d'avoir cette autorisation de forêt. Est-ce que pour certains pays, c'est vraiment ça que ça représente? Parce que ça donne une idée de ce qui peut se passer après.
Alors oui, c'est ça dont il s'agit, et pour certains pays c'est le cas, et y compris la France, me semble-t-il. Hein. Mm-hmm. La France ne veut pas signer le moratoire parce que notre président l'a dit dans son plan pour 2030, il voit ça comme un levier pour l'économie. Donc il y a de nombreux pays qui veulent aller vers cette exploitation.
La France dit, Élodie Martin-Ecousti, et notamment Emmanuel Macron, si je ne me trompe, dit, il faut confort, mais à côté, c'est un peu encore une histoire, mais en même temps, on va préserver un certain nombre de zones. Qu'est-ce que vous dites de ce en même temps-là, en fait, qui dit, laissez-nous forer par endroits, et en même temps, promis, on va vous réserver certaines zones.
Alors, y a un moment donné, le « en même temps », c'est plus possible. Si vous voulez, le « en même temps », malheureusement, du président Macron, on l'a vu pendant ces 5 dernières années, pour la mer, il s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il y a eu, en effet, des créations d'aires marines protégées, des extensions. Mais en France, on n'est pas aux 30% vraiment d'aires marines protégées qui sont... assez d'importance.
Ah oui, je pensais qu'on y était, moi, en fait, nous en France, qu'on était assez vertueux sur nos aires marines protégées.
Oui, mais c'est de la protection de papier. D'accord. Ça fait des années qu'on le dit, c'est-à-dire qu'on ne met pas les moyens sur la protection forte. Et là, on nous sort un projet de décret sur la protection forte qui est un espèce de label et qui ne va pas aller s'appuyer sur des données scientifiques de zones où on devrait vraiment faire de la protection forte. En plus, les moyens du ministère de l'écologie sur ces enjeux de protection n'ont absolument pas évolué dans le bon sens. Au contraire, ils ont eu tendance à régresser. Donc quand le président dit « vous inquiétez pas, on va aller... »
explorer, on va forer à côté.
Pour en fait, exploiter, on va forer à côté. Et ensuite, on protégera, ou en même temps, on protégera. C'est fini, ça ne marche plus. On doit aujourd'hui, pour l'assurance vie de la planète et des habitants de cette planète, pour toutes les communautés littorales mondiales, on doit arrêter cette course au consumérisme de la moindre micro-particule de cobalt au fond des mers. On doit faire très attention à ce qu'on fait parce que la vitesse à laquelle la biodiversité s'effondre ne nous permettra pas, sans doute, d'obtenir autant de résilience que dans les dizaines d'années passées où le climat ne s'emballait pas aussi vite qu'aujourd'hui.
Alors, les aires marines protégées, Joachim Claudet, c'est un peu votre jardin aussi. On va y aller grâce à la question de Julien. Bonsoir, Julien.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre ma question. Donc moi, le sujet m'a interpellé suite à un article que j'ai lu dans Reporter qui dit une conservation extrême de la nature pourrait entraîner des famines. Mmh. Et je me rends compte effectivement que les logiques de protection ne remettent absolument pas en cause le productivisme et l'extractivisme. Ce qui fait qu'on réduit des espaces et que... comme on continue à consommer, eh ben en réduisant ces espaces-là, ça va prélever sur les autres espaces qui sont, eux, pas protégés. Et la plupart du temps, ceux qui vont protéger, c'est les pays riches. Mmh. Et du coup, on va aller exploiter là où ça peut pas être protégé, dans les pays pauvres, et c'est eux qui vont encore morfler. Mmh. Donc pour moi, la conservation extrême, ça n'a aucun intérêt. Surtout, ça ne remet en cause aucun des fondements qui font qu'on en arrive là, c'est-à-dire le productivisme et l'extractivisme.
Joachim Claudet, cet extrémisme dont Julien parle à l'instant et qui fait qu'au fond c'est le diable qui se mord la queue, c'est ça qu'il est en train de nous expliquer, Julien.
Oui, alors je pense que les exemples auxquels il se réfère, c'est plutôt sur terre. En mer, les choses sont différentes parce que les poissons en particulier, les animaux qu'on va protéger, les écosystèmes sont mobiles. Et ce que les scientifiques montrent, c'est que quand on protège de manière intégrale, donc sans exploitation, sans extraction de ressources, une zone, une aire marine protégée, celle-ci va pouvoir se régénérer, les écosystèmes vont se régénérer, les poissons vont grandir, ils vont avoir des taux de reproduction plus importants, ils vont se reproduire, ils vont être plus abondants, et ensuite ils vont s'exporter en dehors de l'aire marine protégée et pouvoir repeupler les zones avoisinantes. Alors soit en se déplaçant, soit avec leurs larves. Et donc les études montrent qu'une aire marine protégée, si elle est protégée avec un niveau de protection suffisant, au bout d'un certain temps, il va y avoir des bénéfices à l'extérieur pour la pêche en termes de capture et en termes d'augmentation des revenus des pêcheurs.
Mais qu'est-ce qu'on fait dans une aire marine protégée exactement, Joachim Claudet, ou est-ce que ça change en fonction d'ailleurs des aires marines protégées? C'est-à-dire, est-ce qu'on y pêche quand même, mais de manière raisonnée? Est-ce qu'on y plonge quand même? Est-ce qu'on y explore quand même? Ou est-ce que ce sont réellement des sanctuaires, comme une espèce de parc national auquel on ne toucherait absolument pas?
Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, parce que déjà, il n'y a pas de définition internationale d'une aire marine protégée. Les pays sont engagés à la CBD, donc c'est une COP des Nations Unies sur la diversité biologique. Ils s'étaient engagés à recouvrir leurs eaux côtières et marines de 10% d'aires marines protégées pour 2020, et on était à peu près à 8%, et là, ils vont très probablement s'engager à 30% pour 2030. Or, les pays peuvent appeler aires marines protégées des zones délimitées sur l'océan où ils peuvent décider à peu près ce qu'ils veulent pour y faire. Mmh. Et donc, selon les types, les scientifiques disent, il y a différents niveaux de protection. On parle de protection intégrale quand il n'y a plus aucune exploitation. Donc plus de pêche et rien d'autre. Et ensuite, il y a différents niveaux, protection haute, légère et minimale, selon le type d'activité qui peuvent avoir lieu.
Et ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est-à-dire, il faut effectivement qu'il y ait une différenciation en fonction des lieux, donc en fonction des zones, ou est-ce qu'il faudrait harmoniser tout ça?
Alors, il faudrait harmoniser. C'est bien d'avoir une panoplie de solutions, une panoplie d'aires marines protégées à utiliser, et c'est bien de combiner les niveaux de protection, donc d'avoir des niveaux de protection très élevés pour obtenir le plus grand nombre de bénéfices, et avoir des zones autour, par exemple, qui vont privilégier l'accès à la petite pêche artisanale, qui sont les premiers à pouvoir bénéficier des aires marines protégées. Mais il est évident que les scientifiques qui travaillons sur ces problématiques nous poussons fortement à ce que des standards internationaux soient adoptés. En particulier, on a travaillé au guide des AMP qui définit les niveaux de protection. Et par exemple, en France, qui est poussé par l'Union internationale de la conservation de la nature et la plateforme Océan Climat pour que la France reconnaisse ces niveaux de protection.
Mais est-ce que le problème, c'est pas surtout que les aires marines protégées en France, par exemple, n'en sont pas vraiment? C'est-à-dire, quand on regarde la Méditerranée ou l'Atlantique et qu'on regarde les pourcentages d'aires marines protégées, en réalité, c'est tout petit.
Alors, les pourcentages d'aires marines protégées sont plutôt énormes. Mais quand on regarde la couverture des aires marines protégées qui peuvent vraiment fournir une efficacité haute en termes d'efficacité écologique ou socio-économique, elle est très faible. Parce qu'encore une fois, c'est fonction du niveau de protection. Donc si on regarde combien il y a d'aires marines protégées, par exemple en Méditerranée française, tout ce que y est déclaré comme aires marines protégées, la Méditerranée française est recouverte à 60%. D'aires marines protégées. Mais si on regarde et qu'on prend en compte uniquement la protection intégrale et la protection haute, donc les niveaux qui, de manière consistante dans la littérature scientifique, ont des bénéfices, on est à 0,1%.
Ah oui.
Si on regarde ces mêmes niveaux en Atlantique, Manche, Mer du Nord, dans les eaux françaises, on est à 0,01%. Donc on est très très loin de contraintes fortes en mer au sein des aires marines protégées.
Ça devrait pouvoir rassurer l'auditeur.
Absolument, oui, j'allais dire. Une question de Patrice sur franceinter.fr, vous m'étonnez, qui dit: pour réguler, voire interdire l'exploitation des océans, il est incontournable d'avoir un arbitre international indépendant des pressions des États et des lobbies qui risquent de prêcher chacun pour leur chapelle. Comment envisager un tel organisme? Est-ce que c'est parfaitement utopique, Élodie Martini-Cousty, d'imaginer ce surorganisme en fait qui servirait à réguler tout ça?
Ben, si vous voulez, au niveau international, on a déjà l'ONU qui est censée permettre que
disons
les pays...
Disons qu'il a d'autres chats à fouetter.
Oui, mais que les pays vivent en paix. C'est pour ça qu'on a aussi l'AIFM qui est au sein de l'ONU, l'Autorité internationale des fonds marins, et puis d'autres organisations qui dépendent de l'ONU pour essayer justement d'emmener tout le monde, d'emmener tous les pays. La France a la deuxième zone exclusive économique du monde après les États-Unis, et on n'est pas les seuls à avoir une zone exclusive importante. Et il faut absolument que les pays qui ont ces zones puissent mettre en place des systèmes de surveillance efficaces, parce que, comme le disait très bien Joachim Claudet, on a tout un panel d'outils en France d'aires marines protégées. On a 17 statuts différents d'aires marines dites protégées. Mais en effet, un parc naturel marin, comme vous avez le parc naturel marin d'Iroise, c'est plutôt une zone où on va gérer des activités différentes dans un endroit où la biodiversité est très riche. Il y a une petite partie qui est réellement protégée, mais l'ensemble du parc marin d'Iroise ne l'est pas forcément beaucoup. Ensuite, vous avez les zones Natura 2000 qui sont des protections européennes, où malheureusement on vient juste à peine de démarrer les évaluations d'incidence de la pêche dans les zones Natura 2000, alors que c'est un outil qui est créé depuis 30 ans. Donc voilà, tout est comme ça, et il faut que chaque pays prenne ses responsabilités. Et la France, là, en la matière, elle en a une importante. En organisant ce sommet et puis en étant à la présidence française de l'Union européenne pendant les 6 mois qui viennent.
Retour au standard, rejoindre Sébastien. Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Sébastien.
Écoutez, moi j'appelle simplement pour donner une réflexion. Et vos spécialistes qui sont en ligne là me confondent dans ce que je pense finalement, parce qu'on va encore être sur sur de l'enfumage, on nous explique qu'on va protéger des zones alors qu'on est déjà incapable de le faire sur Terre. Je pense entre autres aux exploitations minières, je ne sais pas, par exemple en Guyane ou des choses comme ça. On va encore nous vendre le fait que là, les industriels vont pouvoir exploiter de manière sûre, alors sachant très bien que c'est pas possible, et finalement derrière nous annoncer qu'il y aura des zones protégées qui finalement, au vu de ce que vous nous dites, ne le sont pas. Mmh. Voilà, c'était simplement ça. Donc on va se lancer dans une course à l'exploitation pour encore enrichir les industriels et détruire notre environnement. Voilà, c'était simplement finalement cette réflexion-là.
Et merci pour cette réflexion, Sébastien. Cette course, Élodie Martini-Cousty, on a entendu que vous disiez jusqu'à quel point, selon vous, elle avait déjà commencé. On a même Guillaume qui, justement, veut aller plus loin, au-delà de la question de Sébastien, et qui nous dit, est-ce qu'on peut même avoir la description de ces fameux robots, les dimensions étonnages, ceux qui iront racler les fonds marins? À quoi ça ressemble quand on dit exploiter les fonds marins? On parle de quoi, en fait? Est-ce que c'est aussi gigantesque que un forage offshore quand on parle de pétrole, par exemple? À quoi ça ressemble très concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il y aura des navires et des plateformes potentiellement au large, mmh, et sous l'eau des machines. Il faut imaginer comme des foreuses qui seront sous l'eau sur le fond marin et qui feront des forages dans les grands fonds.
Alors je sais bien que c'est un peu l'argument tarte à la crème, mais je pense que c'est ce qu'on va y compris entendre encore ce soir et demain là où vous êtes à Brest, à ceux qui disent si on ne le fait pas nous et si on ne le fait pas bien, nous de toute façon d'autres vont le faire et surtout vont le faire mal et ce sera le Far West. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est quoi l'argument pour contrer ça, Élodie Martini-Cousty?
Alors l'argument pour contrer ça, c'est justement de se mettre d'accord à beaucoup de pays pour dire on n'y va pas. On n'y va pas tant qu'on n'est pas sûr que, un, on en a besoin, deux, ça va rendre des services à l'humanité, et trois, on est capable de le faire correctement. Et la première chose, c'est qu'on est sûr que si on y va dans les deux années qui viennent, on le fera pas bien, parce que on met, comme le disait Joachim Claudet tout à l'heure, la charrue avant les bœufs, mmh, c'est-à-dire on ne connaît pas les grands fonds marins, on ne connaît pas les ressources absolument extraordinaires qui recèlent, et on connaît mal ces écosystèmes parce qu'ils sont en effet très profonds, et donc c'est vrai que c'est compliqué à explorer, mmh, et à connaître. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on n'y va pas parce que on ne sait pas si on en a vraiment besoin. On sait qu'on a déjà presque extrait tout ce qu'il y avait sur la Terre, et donc il faut absolument réutiliser en permanence et recycler tout ce qui peut être recyclé. Et ça, on sait par exemple qu'une éolienne aujourd'hui, ça se recycle à 97%. Donc si on doit en refaire, on aura les matériaux. Nos téléphones peuvent être recyclés. On a des trésors de métaux rares dans les mains déjà qu'on peut recycler pour une partie à l'infini, comme l'aluminium. Donc il y a un moment donné, c'est plutôt ce genre de filière qu'il faut mettre en place plutôt que d'essayer d'aller chercher dans les tréfonds de notre mmh, océan des choses qui vont nous emmener dans une catastrophe annoncée, parce que on ne mesure pas aujourd'hui déjà l'emballement des effets du changement climatique sur la machine océanique. Et quand on va aller chercher tout au fond des océans et qu'on va rejeter du carbone dans l'océan, alors l'acidification, elle va s'accélérer. Et puis, on va changer complètement la nature de la qualité de l'eau et des écosystèmes au fond. Et ça, personne n'est incapable de dire aujourd'hui dans quoi ça peut nous emmener. Donc franchement, le principe de précaution, mmh, s'il existe dans la charte de l'environnement et dans la Constitution française, c'est pas pour rien.
Célia Kilray, je voudrais pas vous piéger en vous demandant une sorte de panorama, mais là on parle de nous, on parle de la France. Maintenant, on sait bien qu'il y a quelque chose d'assez vain au fond dans l'immensité des océans, à ne parler de ce que nous faisons nous et de ce qui va se passer près de nos côtes. Est-ce qu'on sait qui sont les pays les plus vertueux ou l'inverse? Est-ce qu'on sait au-delà de ceux qu'on a cités tout à l'heure, lesquels sont vraiment réellement dans les starting blocks et ont vraiment pour projet d'aller dans les immensités, dans les abysses pour aller plonger. Est-ce qu'on sait qui, pour l'instant, veut bien attendre et freiner, et où est-ce qu'on se situe, nous, dans cette échelle-là ?
Ben, si on parle de l'exploitation des ressources minières, en fait, l'Autorité internationale des fonds marins, qui doit prendre sa décision d'ici 2 ans, est plutôt partie, là, pour autoriser une extraction de ressources. Les pays qui poussent, c'est le Canada, les États-Unis, la Chine, et Emmanuel Macron se dit, sans vouloir le défendre forcément, se dit que de toute façon les autres iront, et donc il veut pousser son économie à y aller aussi, pour éventuellement en profiter pour en tirer aussi des ressources évidemment financières, puisqu'il y a un marché à la clé, mais aussi en se disant, puisque moi j'endosse un costume de protecteur des océans, si j'y suis, finalement j'arriverai à pousser pour des règles de protection, alors que sinon si on laisse uniquement les Chinois ou les Russes aller dans les fonds, ce sera fait différemment. Donc voilà, c'est une vraie question, et en même temps on peut aussi comprendre les scientifiques et les ONG qui disent attendons quelques années. Mais aujourd'hui, c'est évident que des entreprises sont prêtes à y aller, elles attendent ce feu vert, et Emmanuel Macron tout seul ne peut pas dire à l'Autorité internationale des fonds marins moi je décide que vous n'y allez pas.
Gaëtan est avec nous. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir.
On vous écoute Gaëtan.
Moi, j'entends parler des nodules métalliques au fond des océans depuis quelques jours sur votre antenne. Et dans un précédent reportage, j'avais entendu parler d'une expérience qui avait été faite de dragage il y a au moins une vingtaine d'années, où on s'était rendu compte que 20 ans plus tard, la vie n'était pas revenue sur le site. Et pourquoi est-ce qu'on ne nous en parle pas aujourd'hui, alors qu'on sait très bien que ça va influencer gravement la biodiversité?
Merci pour cette question, Gaëtan. Joachim Claudet, est-ce que vous savez répondre à notre ami Gaëtan ?
Oui. Et il fait référence à des traces de chaluts dans des zones profondes. Ce qu'il y a, c'est que les écosystèmes profonds, donc comme je disais en introduction, on les connaît très mal. Ouais. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que le temps est beaucoup plus long. Si on peut dire ainsi, dans les zones profondes, et les temps de développement, de régénération sont extrêmement longs. Donc c'est pour ça qu'on sait que ces écosystèmes sont vraiment vulnérables. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'étendue qu'auront les impacts de l'activité minière dans les grands fonds marins, mais on sait bien évidemment qu'ils auront un impact local sur ces écosystèmes, qui mettront des décennies, peut-être même des siècles, à se régénérer.
Mathias est avec nous. Pardon Mathias, on vous écoute.
Bonsoir. Tout d'abord, je voulais répondre à l'auditeur précédent. C'est pas du chalutage profond, hein. C'est une publication du 22 octobre 2021, Restoration Experiments in Polymetallic Nodule Areas, qui a étudié justement, en fait, des zones de prospection de nodules, et qui a dressé le constat que, de toute façon, on avait une perte drastique de biodiversité. Donc le constat, en fait, il est clair.
Et ben voilà, merci beaucoup pour cette précision, Mathias.
Je peux vous fournir évidemment la publication. Alors, vous avez compris, je suis chercheur.
Oui, j'ai bien compris que vous étiez un petit peu dans la partie, ouais, visiblement. On vous écoute. Est-ce que vous êtes encore là, Mathias?
Voilà. Ah voilà. Oui,
vous avez perdu.
Voilà.
Vas-y.
Voilà. Moi, je suis juste un tout petit chercheur spécialiste des écosystèmes marins. Je vais t'en écouter, mais ça c'est autre chose. Mais simplement. En fait, je veux simplement vous parler d'une personne, et vous allez rechercher sur Internet les références, Monsieur James Estes, E-S-T-E-S, qui est chercheur, en fait, maintenant émérite, à l'Université de Californie, qui a décrypté les écosystèmes du Pacifique Nord depuis 1976 jusqu'en 2015, et qui a démontré les cascades trophiques, en fait, à l'heure, dans les milieux marins. Il a démontré, pour faire simple, hein, c'est quand même 40 ans de vie, hein, il a démontré que la division par 10 des populations de baleines dans le Pacifique Nord induisait par effet de cascade, tout simplement, une chute des ressources halieutiques, et donc plus aucune ressource halieutique sur la côte de l'Oregon, du nord de la Californie et de l'État de Washington. On sait ça. On sait aussi que la biomasse terrestre a été divisée par 10, ce sont des travaux récents, depuis 50 000 ans. Par 10, vous avez bien entendu. Par l'effet de l'homme. Est-ce que ça suffit, ou est-ce que je vais plus loin ? Est-ce que tout simplement c'est non, en fait ? Et il y a un petit papier de la semaine dernière qui est passé complètement inaperçu dans la revue Nature, ce sont des collègues de l'université de Stanford, je crois, qui ont tout simplement montré que leurs batteries organiques, donc sans métaux lourds, des batteries issues de la chimie imitation de la nature, sont plus performantes, en fait, pour des voitures, par exemple, qu'une batterie lithium-ion. Voilà.
On a compris. Merci beaucoup, monsieur le spécialiste. Et merci vraiment beaucoup, Mathias. Joachim Claudet, ce qui est fou, c'est que... Et là aussi, peut-être qu'il faut qu'on fasse un moment qu'on pèse, en fait. Si on écoute nos auditeurs, si on écoute Mathias, qui visiblement est parfaitement bien renseigné, on se dit, mais effectivement, pourquoi on se pose la question, en fait? Pourquoi même on y va si on sait que les conséquences, ce seront celles-là? Donc, est-ce qu'il y a vraiment encore des choses qu'on ignore et qui nous font dire qu'on doit tester, ou est-ce que au fond, il reste plus rien?
Non, c'est plus un choix de société là. Donc c'est pas tellement aux chercheurs de dire s'il faut y aller ou pas. Moi, à titre individuel, j'ai un avis, mais en tant que chercheur, c'est pas notre rôle de dire s'il faut y aller ou non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y aura des impacts extrêmement lourds dont on ne peut pas encore mesurer exactement l'étendue. Donc avec une grande incertitude quant à la magnitude et l'effet que ça peut avoir sur le reste des écosystèmes, parce que il y a des interdépendances, des connectivités entre les différents espaces dans l'océan, et donc on a du mal à quantifier jusqu'où l'impact pourra avoir lieu. Et par rapport à est-ce qu'on en a besoin ou non, et l'exemple des batteries, il y a par exemple des acteurs privés, et pas des moindres, donc je vous dis de mémoire, mais je crois qu'il y a Samsung, BMW, Ford,
Volvo aussi,
et Google, qui ont décidé d'eux-mêmes de ne pas utiliser des produits et des batteries en particulier dont les composants ont été sourcés dans les grands fonds marins. Donc il y a aussi des acteurs importants de la société civile ou des acteurs privés qui peuvent aussi jouer un rôle.
Pardon, allez-y, Célia.
Ouais. Est-ce que aussi l'idée, enfin, je vous pose la question à tous les deux, c'est pas d'essayer de ne pas reproduire dans les grands fonds les erreurs qui ont déjà été commises à terre, voire même en mer. Quand on voit ici que dans ce sommet océan, par exemple, demain, on n'aura probablement aucune mesure de restriction de contre la surpêche ou d'exploitation des ressources qui sont déjà autorisées. Quand on a un traité qui autorise, après, on peut mettre des années avant de pouvoir se remettre autour de la table et de corriger et de revenir en arrière. Est-ce que c'est pas ça aussi que vous avez envie de dire ce soir, c'est attention à ne pas retomber dans le même piège, Élodie.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que demain, quand Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, mais aussi président de l'Union européenne pendant 6 mois, interviendra, il aura quand même la liberté d'essayer d'emmener l'Union européenne dans un accord pour un moratoire. C'est pas la France seule, c'est l'Union européenne là qui. Il peut parler au nom de l'Union européenne et dire nous on préfère attendre. Après, les consommateurs qui vivent en Europe, comme on le disait très bien tout à l'heure, ce sont des choix de société. Si vous voulez laisser à vos enfants une planète invivable, moi c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire en tant que mère de famille, et puis parce que j'aime être ici avec vous et que je trouve ça quand même plus sympa qu'on essaye de trouver des solutions aussi pour les plus pauvres, parce que ce qu'on voit de la mine terrestre et ce qu'elle a produit, elle a produit des richesses bien sûr, mais qui ont profité toujours aux mêmes, et que derrière la mine terrestre il y a l'après-mine que aucun code minier international ou français n'a jamais suggéré. C'est-à-dire qu'on a laissé des pollutions, on a laissé des pluies acides, on a laissé des gens qui sont dans des...
Et aussi des conditions sociales d'extraction qui sont absolument terribles. Et c'est là aussi, ça entre quand même en ligne de compte dans notre manière d'aller les chercher, ces minerais-là.
Exactement. Et en fait, on voit que les populations qui vivent autour des mines terrestres sont les populations les plus fragiles, les plus vulnérables, qui sont traitées d'une façon totalement inhumaine. Donc c'est vraiment la question, en effet, du choix de société, de se dire on a de la chance d'avoir sans doute encore quelques espaces à peu près préservés dans l'océan. On doit en préserver plus parce que sinon on va tout perdre. Alors en même temps, franchement, n'allons pas chercher des métaux dont sans doute on n'a pas besoin si on fait attention à garder nos équipements un peu plus longtemps, à faire en sorte de mettre en place des filières de recyclage. Ça, c'est quelque chose justement qui sera bon pour l'économie. Je répète que en France, 80% des emplois dépendent d'une biodiversité en bon état. En France, simplement, dont 10% directement, celles qui travaillent avec le vivant. Donc, en mer, il n'y a pas de frontières. Donc, nous, on parle de la métropole ici, mais il faut regarder nos outre-mer. Dans le Pacifique, les ultramarins, ils vivent de la pêche. Ils vivent aussi du tourisme balnéaire. Donc, si on va bousiller leurs fonds marins, de quoi vivront-ils? C'est pas eux qui auront les moyens d'aller extraire les nodules polymétalliques ou les encroûtements cobaltifères en Polynésie. Mmh. Et d'ailleurs, le gouvernement polynésien, quand il a voulu étudier la possibilité de regarder si des encroûtements cobaltifères avaient de l'intérêt dans l'exploitation dans son territoire sous-marin, il y a renoncé parce que justement il a regardé tous les avantages et tous les désavantages pour les communautés polynésiennes. Et il a bien vu que ce serait la mort des communautés de pêche et la mort des littoraux.
Il nous reste très peu de temps, mais il nous reste du temps pour votre question. Isabelle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Et j'avais juste une question toute simple. Moi, je suis très admirative de tous les chercheurs et tous les gens qui sont très capés, qui ont beaucoup de connaissances et qui passaient par plein de choses, mais je ne comprends pas qu'ils eux-mêmes n'aient pas compris que le terme rentabilité et le terme écologie étaient antagonistes dans ce qu'ils faisaient. Et je trouve ça dommage que ces gens-là, qui sont pour moi à un très haut niveau, ne puissent pas juste comprendre cette base. C'est antagoniste ce qu'ils veulent faire. C'est pas possible que des gens réfléchissent à tout ça alors qu'on sait très bien que on va à notre perte. On est déjà dans notre perte, mais c'est très antagoniste pour moi ces démarches de scientifiques pour aller faire des recherches dans les fonds marins. Et c'est pas du tout écologique. L'écologie, c'est la base de tout. Si on n'a pas d'écologie, on ne peut pas manger, on ne peut pas se vêtir, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas se nourrir. Enfin, je ne comprends pas.
Ce qui nous permet de boucler, merci Isabelle, ce qui nous permet de boucler la boucle, en fait, Joachim Claudet, au fond, parce qu'on est presque revenu avec Isabelle à la question de départ, et qui consiste à réexpliquer ce que vous faites, au fond.
C'est ça, mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, les scientifiques, quand ils vont étudier les grands fonds marins, ce n'est pas du tout pour inciter derrière à l'exploitation, parce qu'on peut aller étudier l'écologie, on peut aller étudier la géologie de ces fonds. Parfois même le contraire, c'est pour montrer les impacts que ça pourrait avoir. On peut étudier ces zones pour montrer le rôle moteur qu'elles jouent dans la régulation du climat. Donc c'est pas du tout pour inciter à l'exploitation.
Puisqu'il nous reste moins d'une minute et que je vous tiens, Élodie Martini-Cousty, et qu'on a beaucoup oscillé dans la journée d'aujourd'hui entre ce qui s'est passé côté nucléaire et ce qui se passe côté océan, j'aimerais quand même votre avis sur cette multiplication je ne sais plus combien, c'est 50 parcs en tout cas éoliens en mer qui ont été annoncés. Est-ce que vous dites quand même la bonne nouvelle ou pas?
Alors, nous, à France Nature Environnement, bien sûr, on est pour les énergies renouvelables, et qu'elles soient à terre, en mer, mais la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et pour la mer, on accompagne depuis 11 ans tous les porteurs de projets et les services de l'État pour essayer de déployer les parcs éoliens en mer dans de la meilleure façon qui soit pour protéger la biodiversité et l'environnement. Et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, comme depuis quelques années on ne met plus aucun moyen dans ce ministère de la transition énergétique et écologique, et des moyens aussi humains pour et des moyens de recherche, on risque d'annoncer des choses une fois de plus qu'on ne pourra pas faire à la fois dans les délais et dans des bonnes conditions.
En tout cas, les délais.
Donc, nous battons pour ça tous les jours sur le terrain et on espère qu'on va y arriver avec tout le monde. J'aimerais vraiment que.
On y reviendra forcément. Pardon de vous couper. Je suis vraiment désolée.
Non, je vous en prie.
On y est vraiment. En tout cas, on y reviendra forcément à la fois à Belfort et aussi à Brest sur France Inter. Allez, merci.